Je me tourne immédiatement vers notre économiste Jean-Olivier Hérault. L'une des questions fondamentales derrière cette réforme des retraites, c'est bien entendu l'emploi. C'est la question qui intéresse tout le monde au premier chef, les jeunes, mais aussi les seniors. Est-ce que cette réforme va permettre d'améliorer l'emploi des seniors et quelles sont les perspectives des prochaines années là-dessus ?
Merci. Bonjour à tous. Je vais effectivement parler de l'emploi des seniors. Je vais d'abord un petit peu, quelque part, refroidir l'enthousiasme sur cette façon de parler sur l'emploi des seniors. Je voudrais quand même rappeler que, même si je vais jouer ce jeu-là, que l'emploi, les économistes ne cherchent pas à maximiser l'emploi. Donc l'emploi, effectivement, est un objectif à atteindre par rapport au problème de la retraite, parce qu'évidemment, ça ne servirait à rien d'augmenter l'âge de la retraite si les gens, les Français, ne puissent pas continuer à travailler. Donc ça, c'est bien sûr, l'emploi des seniors se pose quelque part comme condition nécessaire de la réussite d'une réforme de la retraite qui cherche à allonger l'âge effectif de retraite, bien sûr. Mais bien évidemment aussi, l'emploi des seniors en soi, on ne cherche pas à maximiser l'emploi. Donc bien sûr, s'il traduit le fait que l'emploi en France, des seniors en particulier, soit faible, si ça traduit un gaspillage, une impossibilité pour ceux qui souhaitent continuer à travailler, eh bien, de continuer à travailler, c'est un problème. Bien évidemment, les économistes, on leur a assez reproché de vouloir maximiser le PIB. On ne cherche pas à maximiser le PIB, on cherche à maximiser la consommation et le loisir. Donc, quelque part, c'est un point important. Donc, je vais quand même effectivement parler de l'emploi des seniors. L'emploi des seniors en France, ça a été dit, est particulièrement faible. Et je pense qu'il est important, bien sûr, de distinguer, ça a été fait, l'emploi avant 60 ans et après 60 ans. Donc, la question qui est posée, est-ce que la réforme de 2010 va augmenter l'emploi des seniors ? Donc je vais répondre à cette question, je vais répondre plutôt oui. Elle va plutôt augmenter l'emploi des seniors et de ce point de vue-là, elle va prolonger et accélérer effectivement les évolutions que Jean-Michel Charpin a notées depuis déjà quelques années. L'emploi des seniors va augmenter dans les années qui viennent du fait de cette réforme. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. Mais il y a un bémol que je vais introduire, c'était absent. D'une façon, ce n'était pas les sujets des... C'est au cœur quelque part de mon sujet. Je pense que ce qui est important, c'était esquissé à un moment donné. Ce qui est important, c'est de se poser des questions encore sur est-ce qu'il existe encore en France des pré-retraites ? Donc avant de penser à la retraite, a-t-on bien, quelque part, nettoyé, entre guillemets, le régime des pré-retraites ? Je pense que non, et c'est une question qui est importante et qui est... Les pré-retraites en ce moment en France ne sont plus les pré-retraites publiques qu'on a connues dans les années 70-80, milieu des années 90. Elle est complètement incrustée, cachée dans notre régime d'indemnisation chômage des seniors. Donc je vais en parler puisque c'est un point qui me paraît essentiel. Donc, pourquoi je vais plutôt répondre oui à la question qui m'a été posée ? Bien sûr, ça part d'un diagnostic, le diagnostic sur la situation actuelle de la France en termes d'emploi des seniors. Donc, nous avons un taux d'emploi des seniors qui est faible, on l'a dit, autour de 40%. Il est très loin, donc 30 points de moins qu'en Suède, par exemple. Donc là, je prends un peu exprès un pic qui nous est très éloigné. Mais en tout cas, il est clairement plus faible que dans d'autres pays. Alors, pourquoi ? Il y a deux points importants à noter. Dans n'importe quel autre pays, nous avons une baisse du taux d'emploi lorsque l'âge de la retraite approche. Et a fortiori, lorsque l'âge de la retraite, bien sûr, est passé, nous avons moins d'emplois, puisque par définition même de l'âge de la retraite, c'est une cessation d'activité, et même une cessation d'emploi, a fortiori. Donc, évidemment, le taux d'emploi baisse dans tous les pays pour les quinquas, mais aussi pour ceux qui ont plus de 60 ans. Donc ça vient, bien sûr, de l'âge de la retraite. Ça vient aussi des problèmes de formation, des problèmes peut-être de déconnexion des salaires et de la productivité, des problèmes de santé, d'invalidité. Donc je dirais que c'est des problèmes qui se posent dans tous les pays, de façon plus ou moins accrue, on pourra en discuter si vous voulez, mais notre déficit d'emploi, donc bien sûr en France nous avons tous ces problèmes-là, bien évidemment, mais notre déficit d'emploi vis-à-vis du reste du monde et du reste des pays qui nous ressemblent en termes de protection sociale, et pour ma part essentiellement du côté donc de l'âge de la retraite et des systèmes de pré-retraite qui continuent à exister. Donc l'âge de la retraite, évidemment, il était encore, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, l'âge légal de 60 ans, mais du fait d'une durée de cotisation relativement faible encore, ça nous emmenait vers un âge effectif, et c'est bien ça qui compte, un âge de liquidation où finalement 61 ans et demi, donc finalement quelque chose qui est encore assez proche de 60 ans. Donc évidemment, nous avons un taux d'emploi des seniors faible sur les 55-65 ans, puisque c'est la définition du taux d'emploi des seniors, entre 55 et 65 ans. Nous avons un taux d'emploi faible en France sur cette tranche d'âge parce que nous partons à la retraite à 60 ans, pour faire simple. Donc évidemment, de façon mécanique, nous avons en gros la moitié, pour faire simple aussi, la moitié de cette population qui n'est plus en emploi puisqu'elle est à la retraite. Donc nous avons un taux d'emploi, encore une fois, massif, et ça a été dit, c'est surtout après 60 ans, en dessous 20%, que le taux d'emploi des seniors est faible en France. Donc évidemment, de ce point de vue-là, premier argument, il est pour moi, c'est une façon assez aberrante qu'on puisse continuer à dire, qu'il faut attendre que le taux d'emploi des seniors remonte avant d'engager une réforme de la retraite, puisque essentiellement, là, le taux d'emploi des seniors est faible parce que l'âge de la retraite est faible. Donc la causalité de ce point de vue-là est très claire dans mon esprit, de l'âge de la retraite vers le taux d'emploi des seniors. Alors, bien évidemment, et c'est là qu'après que peut se glisser, mais dans un second temps simplement, le fait que notre taux d'emploi des 55-59 ans aussi est faible. Est-ce que ça ne serait pas le signe d'une incapacité à travailler plus longtemps en France ? Donc là, évidemment, il y a plus d'éléments de diagnostic à faire. Donc là, je pense, en termes de relatif par rapport aux autres pays, je pense que l'essentiel de notre déficit entre 55 et 59 ans vient d'abord, ça a été dit, je suis content que si des effets d'horizon progressent, je serais très surpris, puisque finalement, Jean-Antoine de Thume, dans le rapport qu'on a fait pour le CAE, nous avions mis très en avant cette idée. Et il est au cœur des travaux de recherche que je peux faire avec François Langot, par exemple. Donc, c'est des choses qui, effectivement, qui sont essentielles. Le fait qu'en France, nous avons un taux d'emploi faible entre 55 et 59 ans, c'est parce que l'âge effectif, et c'est là que, par contre, je diffère de ce qui a été dit, je suis d'accord, ce qui est important, c'est l'âge effectif. Donc, le taux d'emploi des seniors...
L'âge effectif, c'est, pardon, pour...
L'âge effectif, c'est celui de 61 ans que j'ai cité.
C'est l'âge en moyenne auquel...
C'est l'âge à quel on part, effectivement, pas l'âge légal. Donc, nous avons en France un taux d'emploi entre 55 et 59 ans qui est relativement faible parce que nous sommes proches de la retraite. Autrement dit, j'utilise souvent cette expression, nous sommes en France vieux à 57 ans ou 58 ans, non pas parce que nos artères sont plus endommagées que dans les autres pays, parce que nous avons un âge social. Nous sommes plus vieux en France à cause de la proximité de la retraite. Quelque part, c'est évident qu'une entreprise va y regarder à deux fois et plus que deux fois avant de recruter quelqu'un qui a 58 ans, dont on sait qu'elle partira dans deux ans. Parce que ça engage des investissements présents et que le rendement, l'horizon de cet acteur, c'est pour ça qu'on parle d'effet horizon, l'horizon est court. Et donc avant, évidemment, de changer l'organisation de son entreprise, de changer, effectivement, d'investir en formation sur cet individu, sur cette personne, eh bien, effectivement, on va regarder l'horizon. Et là, les seniors de 55-59 ans sont pénalisés par cet horizon court. C'est bien évident aussi que la personne, même elle, en termes d'offre de travail, eh bien, va... chercher moins intensivement un travail lorsque elle peut attendre finalement deux ans, finalement attendre que deux ans avant de prendre sa retraite. Donc ces effets d'horizon jouent très fortement, mais par rapport à un âge effectif. Donc parenthèse que j'ouvre par rapport à ce débat sur l'âge de la retraite, on aurait pu très bien faire une réforme passant par la durée de cotisation qui aurait augmenté l'âge effectif. Parce que je pense effectivement, même si je sors un peu de mon sujet, mais quelque part on y est quand même, que je pense que l'élasticité... Hein, du comportement, enfin, du départ à la retraite par rapport à la durée de cotisation, il n'est pas égal à 1, ce n'est pas 100. C'est pas une année de durée de cotisation, ça fait un an de plus en moyenne d'âge de la retraite, mais il est quand même supérieur à 0,5. Hein, donc il est effectivement assez proche de 1. Et je pense que s'il n'était pas proche de 1 dans le passé, c'est parce qu'on était dans un système de surcotisation. Et on était dans un système aussi avec des pré-retraites. Donc je pense que si on avait augmenté la durée de cotisation d'un an, voire deux, dans le futur, progressivement, je pense qu'on aurait augmenté l'âge de retraite effectif et on aurait pu tirer bénéfice par des effets d'horizon. Parenthèse fermée. Donc je pense que les effets d'horizon jouent fortement. Donc de ce point de vue-là, décaler l'âge de la retraite effectif, et c'est vrai, je crois, que l'augmentation de l'âge légal est de façon automatique pour une grande partie des Français, pour ceux qui sont concernés par la réforme, ils ne le sont pas tous. Bon, là, j'ouvre pas là une autre parenthèse. Effectivement, tout le monde n'est pas touché par cette réforme. C'est bien ceux qui commencent tôt qui vont être touchés. Pour cela, effectivement, on va augmenter l'horizon par augmentation de l'âge effectif de la retraite, passage de 60 ans à 62 ans. Ensuite, dans le diagnostic, donc vous l'avez vu, je pense que l'âge de la retraite, quelque part, est un levier très fort l'âge de retraite effectif est un levier très fort de l'emploi des seniors entre 55 et 59 ans. Deuxième point qui me paraît important, parce qu'il est important d'autant plus qu'il est aux abonnés absents du débat. Et je pense que les partenaires sociaux vont donc voir le prendre, et ils sont obligés d'une certaine façon de le reprendre, c'est la question, appelons ça pré-retraite. Entre 55 et 59 ans, nous avons encore en France, quelque part, une pré-retraite. Dans quel sens ? Dans le sens que nous avons supprimé, le gouvernement a supprimé la dispense de recherche d'emploi, mais il a oublié l'essentiel. Il a oublié de supprimer cette possibilité de rester, appelons ça au chômage, maintenant, avant c'était même plus dans les statistiques, c'était pas dans les statistiques du chômage, mais en inactivité sans être à la retraite, les personnes qui sont encore au chômage à 60 ans et qui sont tombées au chômage maintenant à 58 ans. Mais en tout cas, pour faire simple, si il y a une séparation et si la personne est au chômage à 57 ou 58 ans maintenant et l'est encore à 60 ans et n'a pas atteint le taux plein, elle peut rester en situation indemnisée jusqu'à l'âge du taux plein. Donc maintenant, peut-être pourquoi pas 67 ans. Donc on voit bien que ça ferait entre 58 et 67 ans, ça ferait maintenant 9 ans, ce que j'appelle d'inactivité, donc une pré-retraite financée par la collectivité. Évidemment, ça c'est un point essentiel qu'il faut donc réformer. Sinon, il y a quelque part, évidemment, une aberration à vouloir augmenter l'âge de la retraite et décaler l'abordage des 67 ans en particulier sans toucher à ce système d'indemnisation particulier des seniors. Pourquoi cela coûte beaucoup en emploi ? Eh bien, ça, on a eu la chance, j'allais dire la chance pour cette session, mais je pense que c'est tout à fait mérité. Les prix Nobel d'économie cette année ont bien montré, Diamond, Mortensen, Anne Pissarides, sont des spécialistes du marché du travail, ils ont bien montré que les séparations dans un modèle d'emploi, qu'on appelle le modèle de recherche d'emploi, étaient mutuellement avantageuses. Ça veut dire que je pense, et je vais reprendre cet argument après, je pense que fondamentalement, les séparations qui se produisent à 57 ans, 58 ans, là où le taux d'emploi chute en France, ce n'est pas à 54 ans, 55 ans, c'est un des plus élevés d'Europe. Donc il chute à 57 ans. Eh bien, il chute à 57 ans parce qu'à 57 ans, les partenaires sociaux ont intérêt ensemble, et quand je dis partenaires sociaux, c'est les entreprises d'un côté, les syndicats de l'autre et les salariés. Donc salariés et le patronat, chef d'entreprise, directeur des ressources humaines, ont intérêt à faire partir les seniors. Pourquoi ? Ils ont intérêt à le faire parce que la valeur, le surplus de l'emploi, c'est ce que dégage un emploi en termes de richesse, de valeur ajoutée, à comparer aux opportunités extérieures, ce qu'on peut gagner si on n'est pas en emploi. Eh bien, il y a deux raisons qui font que la valeur de l'emploi, le surplus de l'emploi, tend vers zéro à ces âges-là. Il tend vers zéro parce que les opportunités extérieures, les allocations de chômage sont très généreuses. Donc les salariés acceptent finalement de partir si on leur demande de le faire. Et les entreprises le demandent. Donc les deux. Donc lorsqu'on dit parfois dans le débat, ce sont les entreprises qui sont fautives. De l'autre côté, on nous dit que ce sont les salariés. Eh bien non, il y a une collusion et une coalition d'intérêts qui va dans le sens du départ des seniors à 57 ans avec une allocation chômage relativement généreuse. Donc nous sommes dans ce système-là. Je passe sur le fait qu'en France, il est particulièrement difficile d'organiser le départ et le licenciement et que quelque part, les seniors sont volontaires pour jouer ce jeu de la restructuration des effectifs. Donc je pense que nous avons un système de pré-retraite qui est encore effectivement très marquant et qui effectivement pèse sur le taux d'emploi des seniors. Donc, pour conclure, je pense que la réforme de la retraite qui va augmenter l'âge de la retraite effective pour certains à 62 ans va en partie, de façon automatique après 60 ans, augmenter le taux d'emploi des seniors. Par des effets d'horizon, va aussi jouer positivement sur le taux d'emploi des 55-59 ans. Mais tant que l'on n'a pas pris en main et repris le dossier de cette pré-retraite que je viens d'esquisser, je pense que les effets seront effectivement assez modestes. Je rappelle, pour conclure, que dans les années 90, dans tous les pays européens, il y a bien eu une réforme de l'âge de la retraite selon des modalités différentes, mais pour augmenter l'âge effectif, mais toujours couplé avec une réforme de la pré-retraite. En Pays-Bas, on a supprimé les régimes d'invalidité. Dans d'autres pays, on a supprimé finalement la dispense de recherche d'emploi qui existait aussi. mes distances de recherche d'emploi et donc le régime particulier d'indemnisation chômage. Donc, et souvent ça s'est fait, et pour créer un petit peu de débat parmi nous, représentants des partenaires sociaux, en dessaisissant les partenaires sociaux qui étaient souvent effectivement assez dans une situation de collusion, y compris donc du point de vue du patronat, qu'on n'entend pas sur ces questions effectivement d'allocation chômage plus généreuse, parce qu'on sait bien que sur le terrain, dans chaque entreprise, c'est ce qui permet effectivement de gérer le conflit social en France.
Merci Jean-Olivier Hérault. Je pense que vos propositions vont faire réagir. Juste une chose pour que les chiffres soient bien clairs, parce qu'on a entendu deux chiffres un peu divergents. Le taux d'emploi 55-65 ans, c'est 40%, et c'est entre les taux d'emploi 60-65 ans, et là, entre 17 et 18%, c'est ça, j'ai bien compris?
C'est ça, oui.
Hein, d'accord, parce que c'était pas forcément... Très bien. Peut-être juste avant de passer, d'ailleurs, je remercie tous mes intervenants parce qu'ils ont parfaitement respecté la durée de parole, et donc ça va nous laisser le temps à l'assistance pour poser toutes les questions. J'imagine qu'elles seront nombreuses. Moi, je voulais juste quand même que vous réagissiez sur cette dernière proposition sur les pré-retraites. Faut-il s'y attaquer? Est-ce que c'est prévu?
Sur le constat que... un instant, parce que c'est vraiment très important. Oui, il y a eu un pacte social implicite depuis des années pour dire effectivement un consensus social. La seule petite nuance que je mettrais par rapport aux propos, c'est bien sûr entre les partenaires sociaux, le pouvoir politique, toutes tendances confondues, dans les années 70 et 80, l'avait encouragé. Ce qui me frappe, c'est la réforme de 82 présentée par Pierre Mauroy, c'était dans le cadre d'une réforme pour l'emploi. C'était très clairement la retraite de 60 ans, c'était du partage du travail où effectivement nous considérons que c'est bien effectivement d'exclure les salariés âgés du travail pour donner de l'emploi aux plus jeunes. Mais ça prenait la succession de ce que s'appelait la garantie de ressources, créée dans les années 70, donc par Raymond Barre et Giscard d'Estaing, qui disait aux salariés depuis 60 ans, partez avec 70% de votre salaire à 60 ans. Donc, les pouvoirs politiques ont leur responsabilité au départ. Et ensuite, effectivement, il y a un consensus social très fort sur cette idée, effectivement, de « on gère les difficultés par des départs précoces ». Bon, néanmoins, ce constat, on le fait depuis longtemps, y compris avec les partenaires sociaux. Et je pense qu'il y a déjà une évolution non négligeable qui a été faite, notamment en supprimant, ça a quand même été dit, la plupart des retraites publiques sur ce sujet. Néanmoins, il y a encore des sujets. Par exemple, moi, je me bats depuis des années sur un sujet qui aussi n'est pas simple, c'est le statut social et fiscal des indemnités de rupture. Pourquoi? Parce que, pour des raisons de jurisprudence, grosso modo, quand vous partez, les indemnités que vous percevez, notamment licenciement ou autre, sont considérées comme la réparation d'un préjudice, et donc ce n'est pas soumis à charge sociale et fiscale. Et donc, le calcul de l'intéressé d'entreprise dans ce cas de figure à 58 ans, c'est-à-dire je préfère donner effectivement un gros paquet à un salarié sans charges sociales et fiscales qui sont quand même assez importantes dans notre pays, plutôt que de le laisser au travail pendant 2 ans avec des charges sociales et fiscales. C'est souvent plus avantageux. Donc effectivement, si on a des statuts sociaux et fiscaux qui incitent à la rupture anticipée de façon d'une certaine façon, effectivement, on favorise ces ruptures. Et c'est vrai que je regarde aussi avec attention ce qui s'appelle la rupture conventionnelle qui a été créée par les partenaires sociaux, parce que d'un côté, on a rendu plus difficiles les systèmes traditionnels, et d'autre côté, se sont recréés des systèmes effectivement de rupture conventionnelle. Je déplore énormément du reste qu'on n'ait pas des statistiques sur l'âge des ruptures conventionnelles, puisque dans les données qui remontent, il n'y a pas malheureusement cet âge, j'ai pas réussi à l'obtenir. Mais donc oui, il y a un sujet, mais voilà, ma petite nuance, c'est je pense qu'il y a quand même une conscience effectivement de ce sujet, mais c'est tout à fait vrai. Ce qui me frappe aussi quand on regarde les effets des réformes à 60 ans en 82, c'est que ensuite, effectivement, on considère bien sûr que l'activité a légèrement baissé, mais sur la tranche 60-65 ans, mais elle était déjà largement en baisse, comme je disais, du fait de la garantie de ressources. Mais surtout, il y a un effet sur les pré-retraites, effectivement, et sur avant. Et donc, effectivement, en travaillant sur les bornes d'âge, on travaille sur cet effet horizon qui me semble essentiel pour toute la construction des stratégies d'entreprise. Et c'est pour ça, voilà, ma opinion, bien sûr, l'âge effectif, c'est extrêmement important. Pendant longtemps, on a misé sur la durée des cotisations. Ce qu'on s'aperçoit, c'est quand même que c'est une donnée individuelle, ce n'est pas une donnée collective. Et si on veut travailler sur le collectif, sur la représentation, effectivement, du salarié âgé, je crois comme dans la plupart des pays, parce que aussi ce qui me frappe, c'est que tous les pays utilisent les bornes d'âge. Et donc, il faut travailler aussi sur les bornes d'âge pour travailler sur cet effet horizon.
Oui, alors, sur cette histoire de la chute du taux d'emploi des seniors à partir de 57 ans et le pacte implicite entre partenaires sociaux pour négocier des plans de départ anticipés, c'est assez vrai, c'est un sujet de préoccupation, y compris pour les organisations syndicales, parce que pourquoi ça se passe comme ça? D'abord parce que le régime de l'indemnisation du chômage le permet, parce qu'il y a aussi la question de la fiscalisation des indemnités de départ sur laquelle on réfléchit, qui effectivement incite à ça. Et du coup, les organisations syndicales ont une forte pression des salariés eux-mêmes dans ces contextes. Moi, dans la banque, on a été, en particulier ces dernières années avec la crise, confrontés à devoir négocier des plans sociaux, et on recevait une forte pression des salariés qui nous disaient, alors que nous, on aurait aimé négocier des reconversions, négocier de la mobilité professionnelle, etc., des salariés qui nous disaient, non, par pitié, négociez-nous un plan de départ anticipé pour les salariés les plus âgés. Donc c'est un vrai sujet, on va bientôt entamer des négociations sur l'assurance chômage, et c'est une vraie préoccupation en interne chez nous, je vous livre un peu un scoop, de savoir comment on prévoit des modes d'indemnisation qui, tout en garantissant aux gens qui sont jetés dehors des entreprises contre leur gré, hein, parce que ça existe quand même aussi, on peut maintenir pour ces gens-là un niveau d'indemnisation qui leur permet d'avoir des revenus de remplacement et un niveau de vie correct, mais en même temps, comment on ne met pas en place des procédures trop incitatives effectivement pour cesser l'emploi quand on voit arriver, se rapprocher l'horizon de la retraite, et comment on peut, par la question de la fiscalisation, de la taxation, ou peut-être mettre des périodes d'indemnisation du chômage qui ne commencent qu'après les indemnisations qui sont versées par les employeurs. Enfin bref, comment on peut trouver des procédés assez désincitatifs là-dessus. Mais il y a un autre aspect sur lequel je voudrais insister, c'est que si les salariés font cet arbitrage entre je reste au travail ou je pars parce que financièrement je m'en sors, c'est aussi pour une raison essentielle et qui fait partie du pacte social dont on a parlé au début, c'est que la vie au travail est devenue quelquefois pénible, difficile pour eux. C'est qu'ils se trouvent dans des situations où, parce que l'effet horizon joue, l'employeur n'investit plus ni sur sa formation, ni sur sa qualification, ni sur sa rémunération, que le salarié senior, comme on dit, est mis un peu de côté dans les organigrammes, et parce qu'aussi il perd un peu le sens du travail. J'étais frappée, moi, dans les manifestations, qu'il y avait beaucoup, évidemment, de mobilisation autour des questions de retraite, mais aussi beaucoup de mobilisation autour du sens, de l'éthique au travail, du bien-être au travail, etc., et que les salariés découragés d'un côté, finalement financièrement pas incités à rester au travail, ils font le choix de quitter le travail. Alors je voudrais revenir d'un mot sur la question de l'âge et de la durée, juste pour redire en un mot que effectivement la CFDT elle s'oppose au recul des bornes d'âge pour les raisons que j'ai dites, parce que ça fait porter le coût de la réforme à ceux qui ont commencé jeunes et à ceux qui ont des métiers pénibles. En revanche, la CFDT, depuis longtemps, et en particulier depuis 2003, consciente quand même de l'enjeu démographique, a toujours dit qu'il fallait augmenter la durée de cotisation. On l'a dit et on l'a fait en 2003, et que je suis assez persuadée aussi, comme ça a été dit tout à l'heure, que allonger la durée de cotisation, c'est plus juste. Pour moi, par exemple, moi, les 62 ans, ça ne me concerne pas, et je pense que vous non plus, parce que de toute façon, on savait déjà avant la réforme qu'on serait obligé d'aller au-delà, peut-être même des 62. Et une réforme qui aurait consisté à allonger la durée de cotisation aurait fait que l'effort aurait été plus partagé, et en particulier partagé par ceux qui sont le moins en difficulté dans le monde du travail.
Bon, je vais peut-être très brièvement dire que je partage ces argumentations fondées sur les effets d'incitation, notamment liés au dispositif alternatif, et que je crois que le raisonnement qui consiste à dire que tant pour les efforts des salariés que pour ceux des employeurs, quand la période d'amortissement de ces efforts est plus courte, les efforts sont moins justifiés et sont moins souvent entrepris. Je pense cependant qu'il ne faut pas oublier complètement ou évacuer complètement de notre débat les travaux des ergonomes, qui pour l'instant sont un peu extérieurs. Les ergonomes disent que les seniors peuvent travailler tout aussi efficacement que ceux qui sont plus jeunes, mais que ça suppose un certain nombre d'adaptations. Il y a un certain nombre de choses que les seniors font très bien, il y en a d'autres qu'ils font plus mal, que ceux qui sont plus jeunes. Il y a des conditions de travail qui ne sont pas adaptées aux seniors. Et donc, ça suppose quand même que les employeurs fassent un certain nombre de changements dans les conditions de travail pour permettre aux seniors de travailler de la façon la plus efficace possible.
Donc, juste un point. Donc, tout à fait d'accord, c'était le début de mon intervention, pour dire que ces questions de tâches, je dirais, spécifiques aux seniors, c'est une réflexion importante à avoir, qui a lieu dans tout pays. Certains pays, d'ailleurs, sont en avance sur nous par rapport à ça. Je dirais que c'est quelque part la couche, que j'ai appelée la couche, finalement, commune, qu'on partage avec les autres pays. J'en ai pas parlé parce que je me suis intéressé, évidemment, quelque part au réservoir, je pense, au réservoir d'emploi des seniors qu'on peut avoir par rapport aux autres pays, parce que je pense qu'on a effectivement ce problème d'âge de la retraite faible et donc ces problèmes d'incitation, effectivement, au départ précoce. Juste sur un petit point sur le départ précoce, je pense, bon, ça a été dit, je pense quand même qu'il faut revenir sur les fondamentaux. Les économistes, on ne peut pas être surpris que lorsqu'il y a des incitations financières à partir tôt dans ces régimes, les gens, finalement, demandent à partir. Je pense, c'est pour ça que j'ai quand même fait ce préambule qui a peut-être surpris certains, dire que l'emploi n'est pas un objectif. L'objectif, c'est bien sûr le loisir sous contrainte de revenus. Donc c'est bien évident que si les personnes peuvent partir avec une allocation de chômage relativement proche de ce qu'ils ont après en retraite, eh bien, ils partent et même ils poussent à partir parce qu'ils ne travaillent plus. D'accord ? Donc évidemment, on peut penser que le travail est un facteur d'insertion dans la société. Oui, évidemment. Mais fondamentalement, la désincitation à travailler, effectivement, pèse et pousse encore plus à prendre le loisir.
Merci. Je cède la parole à l'assistance. Nous avons un petit quart d'heure. Donc, s'il vous plaît, des questions courtes et des réponses courtes. Alors, madame. Vous avez des portes-micro. Il y a madame là-bas.
Bonjour. Je sais pas si ça marche. Oui, bonjour, Jocelyne Benhamou, professeure puis chargée de formation continue. Alors j'ai beaucoup conseillère en formation continue. Au cours de ma carrière, j'ai beaucoup réfléchi notamment aux moyens de valoriser l'expérience et aux moyens qu'aurait l'entreprise de permettre à son personnel de transmettre les compétences. Je ne suis pas d'accord avec l'idée qu'il y aurait simplement une collision d'intérêts au niveau financier, hein, et ce qui entraînerait le départ précoce des personnes en inactivité puisqu'ils ne partiraient pas à la retraite. Il y a sans doute un intérêt financier, mais, et là j'ai des exemples en tête, lorsque vous poussez un cadre à 58 ans à prendre la porte, il se sent vraiment dévalorisé et l'intérêt financier n'est pas le seul à entrer en compte et il cherche par tous les moyens à savoir comment il peut se relancer dans la carrière. Donc, moi, ma réflexion, c'est est-ce qu'il ne faut pas sortir des schémas classiques, entreprise, protection sociale ? Est-ce qu'il n'y a pas de nouvelles structures à repenser pour pouvoir faire profiter la France quand même d'un atout majeur qui est le capital de ces hommes et de ces femmes qui ont des connaissances, des savoir-faire, des savoirs et qu'on n'arrive pas à valoriser ? Ça fait des années que j'entends qu'il faut transformer le travail pour valoriser les compétences dans les entreprises. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas réfléchir justement à la mise en place de structures nouvelles qui permettraient à des cadres de faire profiter de son expérience un ensemble de compétences, peut-être, puisqu'on a un réseau d'entreprises qui est de petites entreprises, pourquoi pas partager ces compétences entre plusieurs entreprises, au lieu de mettre finalement ces hommes et ces femmes en relégation sociale, parce que c'est bien ce qui arrive très très souvent. Voilà, voilà ma question.
Une forme de tutorat en quelque sorte, une forme de tutorat qui je crois se développe, non Jean-Olivier Hérault ?
Non mais je crois que ces pratiques, ça peut être le tutorat, ça peut être d'autres pratiques effectivement de mise en valeur du capital humain des spécifiques des seniors et qui est très important, qui est une richesse pour la France et pour les entreprises en particulier. Donc ça, je pense qu'effectivement, c'est un gaspillage effectivement énorme. Et encore une fois, c'est pour ça que j'ai insisté sur ce point-là. Pourquoi y a-t-il ce gaspillage qui se produit aussi dans d'autres pays, pour d'autres raisons, mais pourquoi il se produit-il si fortement en France ? Parce qu'en France, et ça a été dit, nous avons eu cette croyance collective que pour gérer ces problèmes de chômage, et en particulier l'entrée des jeunes sur le marché du travail, nous allions le gérer par le départ précoce des seniors, ce qui est évidemment un contresens historique terrible et ce que nous payons encore. Et nous le payons pourquoi ? Parce que cette croyance collective de partage sur le cycle de vie finalement du travail, eh bien cette croyance collective a poussé à mettre en place des incitations, c'est pour ça que j'en ai parlé, et je ne vais pas m'en excuser d'en parler. Encore une fois, je pense que c'est fondamental, justement pour, parce que ça empêche, quelque part, cette prolongation de l'activité. Pourquoi ça l'empêche ? Parce que les entreprises, les ressources humaines sont tellement habituées à pouvoir gérer la continuation par la sortie précoce, et bien sûr, cette sortie précoce, elle est aussi acceptée. Et elle est acceptée, pourquoi est-elle acceptée ? Parce qu'elle est assise sur des incitations financières. S'il n'y avait pas ces incitations financières, eh bien, la plupart des seniors, eh bien, autrement dit, je dis parfois, pour créer un peu de conflit de brouhaha, je dis qu'il faut recréer du conflit social sur la dernière tranche d'âge. Il n'y a pas assez de conflit social dans l'entreprise, il y a trop de collusion d'intérêts sur le départ des seniors. Donc recréer du conflit social, c'est recréer effectivement des désaccords entre le senior qui ne voudrait plus, qui ne serait plus d'accord pour partir, et l'entreprise qui continuerait toujours à le faire partir pour des mauvaises ou bonnes raisons. Donc recréer du conflit social, c'est recréer du surplus de l'emploi.
Madame, oui.
Oui, vous venez un petit peu de répondre à ce que je vais dire. Dans le cadre de la retraite, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi, emploi des seniors est un objectif à atteindre, mais l'emploi des jeunes. Parce que pour avoir une retraite, il faut démarrer. Et on démarre. Regardez les jeunes actuellement pour trouver du travail. À quel âge ils commencent à trouver vraiment un travail qui va leur permettre une retraite ? Donc je pense qu'on ne peut pas dissocier l'emploi des seniors avec l'emploi des jeunes, sans vouloir dire que les seniors prennent la place des jeunes. Hein. Mais l'emploi des jeunes est important dans la création d'une retraite, je pense.
Mais enfin, tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, je pense que l'allongement de la durée des cotisations, c'est bien, je le porte. Mais enfin, il faut aussi voir qu'à un moment donné, ça devient quand même aussi. C'est vraiment une vraie contrainte. Et en fait, quand on se projette, effectivement, qu'on voit les démarrages d'activité aujourd'hui, d'ores et déjà, les jeunes, et quel que soit le métier qu'ils font, effectivement, vu qu'on va vers des durées de cotisation de 41-42, effectivement, ils vont effectivement travailler jusqu'à 62-63 ans, vraisemblablement. Donc, en fait, la réforme actuelle, c'est aussi, si je peux me permettre, c'est une réforme aussi intergénérationnelle. C'est-à-dire qu'elle va travailler sur les générations qui, elles, ont commencé plus tôt. Effectivement, on va leur demander de travailler un peu plus tard, mais la durée de cotisation, je pense qu'effectivement, c'est un bon paramètre, mais à condition que, comme on trouve effectivement des conditions d'emploi qui effectivement permettent d'assez tôt effectivement avoir des cotisations. Donc, et derrière, c'est aussi une réflexion sur. Alors, on l'a un peu arrêté en France, mais l'allongement permanent des études, effectivement, parce que l'autre phénomène qui a eu lieu avec le fait de retirer les seniors du marché du travail, c'est effectivement aussi un allongement des études de plus en plus important. Et je pense qu'effectivement, il faudrait sans doute s'interroger sur, effectivement, arrêter un peu ce phénomène, parce qu'effectivement, 42 ans, il va falloir, effectivement, il va falloir les faire. Et donc, effectivement, travailler sur l'emploi des jeunes, là, je pense que la CFDT ne peut qu'être d'accord, puisque M. Chirac a déjà évoqué ce sujet.
Moi, si vous permettez, je voudrais revenir quand même d'un mot sur à la fois l'emploi des seniors et l'emploi des jeunes, sur ce que vous avez dit en termes d'intérêt financier, etc. Je partage l'analyse, mais en même temps, je pense qu'il ne faut pas minorer l'effet conditions de travail, vie au travail que tout ça a. C'est que si les gens font cet arbitrage financier, c'est bien parce que dans leur vie quotidienne au travail, encore une fois, ils ne s'y retrouvent pas pour des raisons, alors peut-être d'ergonomie, mais pas seulement, pour aussi des raisons de sens qu'on donne à leur travail, pour des raisons du fait qu'on les exclut un petit peu de fait, encore une fois, de toutes les perspectives de promotion, de formation, etc. Et que du coup, ce qui est posé, c'est bien la question du contenu du travail, au moins autant que la question de l'argument financier, et je pense que c'est posé aussi pour les jeunes. C'est-à-dire que, bien sûr, il faut regarder, il faut probablement réfléchir à mettre en place des règles sur le marché du travail qui luttent contre la précarisation des jeunes, qui leur permettent d'intégrer l'entreprise, non non pas avec des sous-contrats, avec des stages, etc., mais avec des... Mais il faut aussi... moi, j'étais frappée, la CFDT a organisé la semaine dernière un colloque sur l'emploi des jeunes, où on avait invité des organisations de jeunes, alors des étudiants, mais aussi des lycéens, mais aussi des organisations de jeunes précaires, des organisations de jeunes chômeurs, etc. Et ils nous disaient, au fond, ce qu'on constate quand on arrive à intégrer l'emploi par un contrat ou par un autre, souvent des contrats précaires, c'est le manque de coopération entre les générations. On se sent perdu, on ne nous apprend pas les codes, on ne sait pas s'orienter dans l'entreprise. Et pourquoi ? Parce que l'intensification du travail, le durcissement des conditions de travail ces dernières années, ont fait qu'il n'y a plus de temps de collaboration, il n'y a plus de temps de coopération entre les salariés. Quand vous dites qu'il y a une baisse de la conflictualité, je pense qu'il faut observer qu'il y a au contraire dans les entreprises un retour fort de la conflictualité autour de ces questions de conditions de travail. C'est bien que je pense que la question du contenu et des conditions de l'exercice du travail et des métiers sont vraiment un enjeu extrêmement important dans l'emploi tant des seniors que dans l'emploi des jeunes en termes d'accueil des jeunes dans le monde du travail.
Je parlais de conflits sur les séparations uniquement.
Nous avons le temps encore pour une à deux questions très rapides.
Oui, je souhaitais intervenir également sur cette question de la segmentation de la vision que vous renvoyez sur le taux d'activité des seniors. Moi, je comprends que comme économiste, vous évoquiez le fait que le niveau de l'allocation chômage incite les salariés à sortir de l'emploi. Mais comme l'a rappelé Monsieur Charpin, je pense qu'il faut globaliser les questions. Or, aujourd'hui, il y a de nombreuses enquêtes en entreprise qui montrent que les salariés qui, aujourd'hui, n'apprennent plus dans le travail, et c'est plutôt les salariés vieillissants, parce que à partir de 45 ans, on n'a plus accès à la formation professionnelle continue. Et donc, la mobilité interne est extrêmement compliquée. En plus, les durées de formation sont extrêmement faibles. La durée moyenne de formation, c'est une vingtaine de jours. On ne transforme pas les capacités des salariés en 20 jours pour qu'ils soient en capacité de tenir un autre emploi. Et puis, je crois que la question de la pénibilité, elle se pose. Elle ne se pose pas uniquement pour les seniors. Elle se pose pour des salariés extrêmement jeunes dans l'entreprise. Quand on regarde l'absentéisme aujourd'hui dans l'entreprise, l'absentéisme touche bien évidemment les salariés vieillissants, mais l'absentéisme touche aussi les salariés plus jeunes. Et il me semble que ces conditions de réalisation du travail aujourd'hui sont une grande motivation pour sortir de l'emploi. Alors effectivement, si en plus les allocations chômage sont finalement relativement importantes, comme vous l'avez évoqué, ça explique que les gens sortent de l'emploi. Mais je crois qu'il y a aussi les représentations des employeurs. Les employeurs aujourd'hui pensent que les salariés vieillissants ne sont plus productifs. Or, aucune étude aujourd'hui, y compris des économistes, ne montre que la productivité des seniors décroît par rapport à la productivité de salariés plus jeunes.
Monsieur Charpin, vous voulez répondre à celle-là ?
Oui, je veux bien dire un mot. Je suis globalement très d'accord sur ce qui vient d'être dit, même si, disons, la mesure effective des productivités comparées des différentes tranches d'âge est un exercice délicat, hein, pour une raison que chacun comprendra de façon évidente, c'est qu'on ne peut mesurer la productivité que de ceux qui sont restés dans l'emploi. Et évidemment, quand on mesure la productivité de ceux qui sont restés dans l'emploi, on trouve grosso modo que les seniors sont très productifs. Mais on ne mesure pas la productivité de ceux qui sont partis, dont la productivité était peut-être inférieure. Je crois qu'il faut que les employeurs fassent effectivement un effort du côté de la formation et des conditions de travail, tout en faisant des calculs économiques raisonnables quand même. Parce que pour ce qui est de la formation, on sait très bien qu'il y a un certain nombre d'apprentissages qui, au-delà d'un certain âge, devient difficile. On n'apprend pas à parler anglais ou on n'apprend pas à parler une langue étrangère au-delà de 50 ans. C'est extrêmement difficile. Par contre, il y a d'autres efforts de formation qui peuvent être justifiés. Et je crois surtout, moi, à l'adaptation des conditions de travail en suivant les conclusions des ergonomes. Les ergonomes ont beaucoup travaillé sur ces sujets-là, en France comme à l'étranger, mais surtout à l'étranger. On sait qu'il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas véritablement demander aux seniors, ou plutôt pour lesquelles ils sont très inefficaces. Si vous demandez aux seniors de faire des missions à l'étranger très lointaines, très brèves, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile pour eux. Ils ne supportent pas tout à fait de la même façon les échéances trop strictes. Enfin, il y a un certain nombre de conclusions des ergonomes qu'il faut, à mon avis, prendre en compte dans l'organisation du travail. En sens inverse, il y a des choses que les seniors font mieux que les plus jeunes. Par exemple, animer une réunion ou transmettre des savoirs, ils le font très très bien. Donc il y a un certain nombre d'efforts qui sont relativement peu coûteux. Je rajoute une petite remarque sur la discussion précédente sur l'emploi des jeunes. pendant la récession que nous venons de vivre, comme ça se produit à chaque fois dans toutes les récessions, c'est la génération entrante qui a le plus souffert. C'est celle qui sort du système éducatif, qui a payé une grande partie du poids de la récession. Ceci était vrai pour toutes les récessions. Il se trouve qu'en même temps, l'emploi des seniors a continué à croître. Et donc, inévitablement, on va voir des analyses qui vont lier le fait que la génération entrante a souffert de la récession et qui vont comparer ça au fait que l'emploi des seniors a continué à croître. Il faut cependant garder en tête en permanence qu'il n'y a aucun élément de preuve qui permette de penser que les pays qui font partir leurs seniors plus tôt ont des performances meilleures sur l'emploi des jeunes. Ceci est extrêmement documenté en comparaison internationale, donc il faut en même temps avoir cette donnée en tête.
On va libérer la salle parce qu'il faut que ceux qui veulent assister aux autres conférences puissent partir. Je remercie vraiment nos intervenants pour la qualité de leurs interventions et je vous remercie vous beaucoup pour la qualité de votre écoute et vos questions.